Voilà, notre passage ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Le premier chapitre, donc c'est à la page 739, je pense. Avant de lire le passage, je vais prier. Prions. Merci, notre bon Père Céleste, pour ta parole. Merci pour cet évangile de lumière qui nous libère, qui nous libère finalement, qui nous sauve de ta juste colère pour que nous puissions être pleinement réconciliés à toi, te connaître dans la paix. Et Père, nous allons te demander ce matin de nous parler par cette parole pour que nous puissions te connaître davantage, t'aimer davantage, te suivre plus fidèlement. Je te demande vraiment de m'aider aussi à l'expliquer de manière fidèle. J'en ai besoin, j'ai besoin de ton aide. Donne-nous d'entendre ce matin ta voix. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. On va lire les versets 15 à 17 du chapitre 1. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. À vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors, au cœur de l'histoire protestante, on l'a vu la semaine dernière, il y a cette histoire personnelle de l'homme, cet homme, qui, ce moine qui s'appelait Martin Luther. En quelque sorte, c'est l'histoire de sa lutte personnel dans la foi, sa lutte avec la culpabilité. Oh, bien sûr, tout ce qui est la réforme protestante ne dépend pas juste d'un homme. Il y avait pas mal de réformateurs, même avant lui. Mais quand même, son histoire personnelle illustre bien la question qui était au cœur de cette réforme. Et ça nous montre aussi l'enjeu personnel, l'enjeu important de cette réforme. C'est la question de comment un homme peut être sauvé par Dieu. Comment un homme peut recevoir le salut et avoir la paix, garder la paix avec Dieu. Alors, à un moment donné de sa vie, Martin Luther lisait les Écritures. En fait, je pense qu'il lisait ce passage dans Romains chapitre 1. Il lisait avec l'aide de ceux qui venaient de le traduire du grec. À l'époque, c'était beaucoup plus répandu de lire en latin, mais des hommes comme Erasme avaient fait de nouvelles traductions du grec. Et Martin Luther lisait la Bible avec ses traductions grecques et il a vu clair, il a mieux compris l'Évangile, il a redécouvert l'Évangile. Et c'était un moment de grande liberté, de grande lumière. Et on va voir que cette réforme pratique, cette réforme protestante n'est pas juste un mouvement philosophique, mais vraiment quelque chose de pratique qui concerne notre foi personnelle. Parce que ce que Luther a redécouvert était vraiment transformateur. Ça nous conduit à connaître Dieu tel qu'il est vraiment, à le connaître comme le Dieu d'amour qu'il est. Ça nous donne aussi de l'assurance devant lui. Ça nous donne l'assurance que Dieu est pour nous, aujourd'hui, demain, après-demain et dans l'éternité. Parce qu'on y voit que notre foi n'est pas basée sur notre performance ou même sur nos rites d'église ou ce que l'église peut faire pour nous, mais seulement sur l'action de Jésus-Christ, sur son œuvre parfaite accomplie pour le croyant. Et cette assurance devient le socle de notre vie avec Dieu. De cette assurance jaillit la joie, la paix, la consolation, l'espérance, tout ce qui est de bon et de si bienfaisant dans la foi chrétienne. Alors, en guise de rappel, nous sommes ce matin dans le deuxième volet d'une mini-série de deux prédications sur les différences entre protestants et catholiques. Alors, c'est rare qu'on fait ce genre de série. Et on le fait non pas pour polémiquer ou pour casser du sucre sur le dos de nos amis, nos collègues catholiques, mais juste pour que nous voyons plus clair, pour que nous voyons nous-mêmes les enjeux et pour que nous soyons nous-mêmes en mesure d'expliquer la foi biblique à nos amis, à nos collègues catholiques. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Juste en guise de rappel, nous avons vu la semaine dernière que la quasi-totalité de nos différences concerne la place de la Bible, la place des Écritures. Nos différences découlent de cette différence-là. Parce que c'est notre conviction que la seule autorité infaillible en matière de foi est les Écritures, la Bible. C'est elle seule, qui est la mesure de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est vrai. Mais on a vu aussi que les catholiques disent que ce n'est pas ça. Eux, ils disent que l'autorité ultime, c'est les Écritures, oui, certes, mais la tradition catholique en plus. Et ils disent aussi que c'est seulement l'Église catholique qui a, comment dire, la capacité d'interpréter de manière authentique ces Écritures et cette tradition. On a vu aussi qu'il y a des conséquences désastreuses. Si on ajoute la tradition aux Écritures, ça nous conduit inéluctablement à remplacer la parole de Dieu avec la parole de l'homme. Cette semaine, donc, c'est, comme j'ai dit, le deuxième volet. Et nous allons enquêter sur la deuxième grande différence entre protestants et catholiques. Et vraiment, c'est la différence, c'est la chose qui change tout et qui fait que finalement, notre foi, elle est très différente de celle des catholiques. La question au cœur de cette réforme au XVIe siècle concernait le comment de notre salut. Comment un homme peut-il recevoir le salut que Jésus a acquis à la croix pendant son ministère terrestre, à la croix dans sa mort et dans sa résurrection? Alors je formule la question de cette manière-là parce que bien sûr on a plein de choses en commun avec les catholiques, on croit en Jésus. On croit qu'il est pleinement homme, pleinement Dieu, qu'il est mort sur la croix, sous la gouvernance de Ponce Pilate au premier siècle, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est monté au ciel, il est là à la droite du Père, il règne et il revient pour juger les vivants et les morts. Donc plein de choses en commun. Mais la question primordiale qui nous sépare, c'est comment est-ce que l'homme reçoit ce salut que Jésus a acquis. Comment est-ce qu'on reçoit ce salut? On va voir que cette différence est quand même une différence de taille. Cette fois-ci, on va commencer plutôt avec le point de vue protestant. Sur vos bulletins de chant, vous avez le plan de ce qu'on va voir ce matin. On va commencer cette fois-ci, on a commencé la semaine dernière avec le point de vue catholique, on va commencer cette fois-ci avec le point de vue protestant, ce qu'on croit que la Bible dit à ce propos. Et ensuite, je vais essayer d'expliquer ce que les catholiques croient avant de voir les enjeux. Ce que les protestants croient. Martin Luther, ce moine, luttait avec sa culpabilité. Il était un moine zélé, très zélé. Il voulait vraiment avoir la paix avec Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Et il voyait bien qu'il n'était pas à la hauteur de Dieu. Et ça terrorisait son âme. Et dans un sens, on peut dire qu'il se trouvait dans une situation terrible. Il voyait la condamnation de Dieu s'abattre sur lui. Mais il était aussi dans une bonne situation, une situation favorable, parce que ça le poussait à rechercher dans les Écritures comment avoir la paix avec Dieu. Comment être délivré de cette culpabilité, de cette condamnation. Comment recevoir, comment garder la paix, l'approbation divine. On voit par exemple dans les Écritures, dans les psaumes, voilà une situation, la situation de l'homme. On lit « Si tu gardais, donc Dieu, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» C'est vrai, devant Dieu, qui peut tenir, se tenir devant lui ? Qui peut subsister devant lui ? On est tous coupables. La loi nous le dit, la loi nous montre que nous sommes bien capables. La loi ne peut pas nous sauver, elle ne fait que montrer ce que nous avons fait. Donc comment est-ce que l'homme qui est manifestement coupable, comment est-ce qu'il peut entrer dans la présence de Dieu et connaître l'approbation de Dieu ? Comment est-ce qu'il peut garder cette approbation ? Aujourd'hui, comme dans l'éternité. Pour faire très simple, Luther a découvert, ou plutôt il a redécouvert dans ce premier chapitre de l'Épître aux Romains, que cet évangile est vraiment un évangile qui peut nous sauver, aujourd'hui comme dans l'éternité. Il peut vraiment nous sauver du jugement de Dieu. Il a vu ici que le moyen pour recevoir ce salut et pour garder ce salut, c'est simplement la foi en Dieu, la confiance en Dieu. C'est le fait de croire Dieu, de croire ses promesses concernant son Fils. Rien que ça. Que ça. Verset 16, je vais le relire. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif premièrement, puis du Grec. » L'Évangile est vraiment une bonne nouvelle parce qu'il nous sauve du jugement de Dieu. Il nous sauve de la juste colère de Dieu à l'égard de nos fautes. Et quel est le moyen pour recevoir cette bonne nouvelle, cette délivrance, ce salut ? Nous recevons ce salut en croyant Dieu. Alors on peut se dire, comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'un Dieu qui est si juste peut tout simplement nous pardonner parce qu'on croit en lui ? Comment est-ce qu'il peut mettre de côté nos fautes comme si de rien n'était ? Or, si un juge à la cour d'assises de Paris décidait de faire ça pour un criminel qui était manifestement coupable, je pense qu'on aurait droit dans Paris à des manifestations monstres. On a vu à la télé ces dernières semaines ces manifestations aux États-Unis à la suite de ce verdict à Ferguson, des manifestations monstres. On aurait droit à de telles manifestations aussi. Comment est-ce que Dieu peut le faire de manière juste ? Le verset suivant, le verset 17, nous met sur la bonne piste. « Parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Alors cet évangile, cette bonne nouvelle, est juste. On va voir qu'il est juste. Et cette bonne nouvelle révèle la justice de Dieu. Dieu peut nous sauver de sa colère et il le fait de manière juste, de manière satisfaisante, d'une manière que personne ne peut contester. Parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas un juge corrompu qui balaye d'un revers de sa main la justice, nos fautes. Alors, comment est-ce qu'il le fait ? Je vous invite à trouver le chapitre 3 de cet épître aux Romains. Donc, juste, c'est à la même page, 733. En fait, on va passer à la page 734 et les versets 21 à 28. Je ne vais pas les lire, mais je vais juste faire référence à ces versets. Donc, je vous invite à peut-être noter le passage et ensuite le lire après chez vous. Parce que c'est dans ce passage qu'on voit comment Dieu peut nous sauver par la foi de manière juste. Et nous sommes ici au cœur de la redécouverte de Martin Luther. On voit dans ce passage que cette justice de Dieu a été manifestée à la croix en Jésus-Christ. Verset 25 par exemple. Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est lui, donc Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang Donc c'est la croix. Une victime expiatoire ou propitiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Donc Jésus, à la croix, a été une victime propitiatoire. Donc il a été un sacrifice. Jésus a été innocent. On a vu ça dans ce passage qu'Alex a lu tout à l'heure. Jésus a été parfaitement innocent. Mais il n'était pas coupable du péché, mais Dieu l'a donné. Et Jésus s'est donné de manière volontaire. Il est devenu un sacrifice pour le péché. Jésus a pris sur lui le poids des fautes de son peuple. Et dans le langage de ce passage que Alex a lu, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. En fait, Jésus a pris la place de son peuple. Il a pris sur lui la condamnation que son peuple méritait. Alors Jésus ne méritait pas cette condamnation. Mais de manière volontaire, il a prise. Et le péché de son peuple fut puni. Jésus a été puni. Dieu a puni Jésus. En fait, Jésus est Dieu, il est pleinement Dieu, il est un avec le Père. Donc on peut dire que Dieu a été puni, il a pris le châtiment sur lui-même. Et ainsi, justice a été faite. Dieu n'est pas un juge corrompu qui balaye le péché comme si de rien n'était. Il est venu lui-même. C'est la bonne nouvelle de Noël. Dieu est venu lui-même pour prendre sur lui-même le châtiment que nos fautes méritent. Mais la question du jour, c'est comment est-ce qu'on peut recevoir ce salut? Comment est-ce qu'on peut nous mettre au bénéfice de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix? Versets 21 à 24. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, est manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes ou justifiés par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Alors ce salut, ce pardon, est donné à tous ceux qui croient. Est-ce que vous voyez bien ça au verset 22? Rien que ça, à ceux qui croient. Ensuite, verset 24, on voit qu'ils sont gratuitement justifiés ou déclarés justes par sa grâce. Alors ça veut dire que le salut est vraiment un cadeau. Un cadeau ne se mérite pas, c'est quelque chose qu'on reçoit. On ne doit pas se montrer à la hauteur du cadeau, c'est simplement un cadeau. On ne doit pas se montrer à la hauteur pour le garder ou pour le maintenir, c'est un cadeau. C'est vraiment donné gratuitement par la grâce. Et ce cadeau est basé non pas sur notre performance, mais sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est vraiment sa faveur imméritée. Dieu ne devait pas nous montrer sa faveur. Nous étions coupables. Mais dans sa grâce, il nous a donné sa faveur imméritée. Et ce salut est une question d'être justifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justifié? Et là, on est au cœur de la différence entre l'Église catholique et l'Église protestante. Qu'est-ce que ça veut dire d'être justifié au juste? Alors, pour être très simple, les catholiques qui se basaient à l'époque sur une vieille traduction latine du Nouveau Testament, les catholiques disaient que c'est une question d'être rendu juste, que le croyant devait être rendu juste devant Dieu. Luther, par contre, et les réformateurs qui, avec l'aide des réformateurs comme Erasme, se basaient sur la traduction grecque du Nouveau Testament, disaient non, c'est pas ça. En fait, le mot justifié est un mot juridique, légal. Et ça veut dire être déclaré juste. On le voit dans notre traduction de la Bible, être déclaré juste. Un juge nous déclare soit coupable, soit innocent. Le juge ne nous rend pas innocent ou coupable. Un juge ne peut pas nous rendre innocent, il ne peut pas nous rendre coupable. Il ne fait que juger. Il nous juge, il nous déclare soit innocent, soit coupable. Et justifié, c'est le contraire de condamner. Condamner, c'est faire une déclaration de culpabilité. Condamner quelqu'un n'est pas le rendre coupable, mais c'est juste déclarer quelqu'un coupable. Mais justifier, c'est le contraire. C'est le déclarer juste, le déclarer libre de s'en aller. Il n'y a plus d'accusation. C'est acquitter quelqu'un. C'est ce que le juge fait. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous déclare juste. Il nous libère, il nous acquitte, nous qui sommes coupables. Et c'est ça le cadeau extraordinaire. Et plus on se rend compte qu'en effet, on était coupable, et on l'est encore, on ne mérite pas cette déclaration. On s'émerveille devant cette grâce. Dieu nous a déclaré juste, nous qui ne sommes pas justes. Mais en fait, on peut aussi ensuite nous poser la question, comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un Dieu juste peut le faire? Comment est-ce qu'il peut nous déclarer justes, nous qui ne le sommes pas? Il peut le faire de manière juste pour tous ceux qui croient en Jésus, qui s'accrochent à Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a un véritable échange. Jésus, lui, était chargé de nos fautes. Il a payé la facture, la dette pour son peuple. Il a été châtié, il a subi la colère de Dieu à la place de son peuple. Et parallèlement, Dieu crédite au compte spirituel, si vous voulez, de tous ceux qui se fient à lui, son obéissance, sa justice. Il y a un échange glorieux quand on se fie à Jésus. On voit par exemple dans un autre livre, dans une autre lettre de Paul, 2 Corinthiens 5, verset 21, si vous voulez noter cette référence, Paul dit « Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, il, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, à notre place, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous voyez bien l'échange, Jésus est devenu péché, nous on devient justice en lui. Et le petit mot « en lui » est important parce que on peut parler de l'union de la foi. Celui qui met sa confiance en Jésus rejoint son équipe en quelque sorte. Il est en lui, caché en lui, joint à lui, collé à lui. Jésus devient son capitaine, son représentatif. Si on a mis notre confiance en Jésus, on est en lui et Dieu nous voit caché en Jésus. Lorsque Dieu nous voit, lorsque Dieu voit celui qui a mis sa confiance en Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le sacrifice suffisant de Jésus qui a payé pour notre faute. Et il nous voit en Jésus avec sa justice, il voit la justice de Jésus. On est revêtu de cette justice. On l'a reçue comme un cadeau. Et donc Dieu peut nous déclarer juste de manière juste parce qu'on a réellement cette justice qui est celle de Jésus. Nous sommes en lui, cachés en lui. Et Dieu peut nous déclarer juste aujourd'hui, demain, après-demain et dans l'éternité. En fait, lorsqu'on met notre confiance en Jésus, lorsqu'on est déclaré juste, parce qu'en lui, on est en lui, c'est comme si le verdict du jugement du dernier jour est ramené au jour présent. Et on entend déjà ce que Dieu va nous dire, ce qu'il va dire à notre rencontre, à notre égard. Il nous dit, mon enfant, tu es acquitté. Je te déclare juste. Tu es acceptable à mes yeux. Non pas parce que vous êtes devenu vous-même juste, mais parce que vous avez la justice de Jésus. On en a besoin parce que nos vies ne sont pas parfaites, mais nous avons cette justice de Jésus. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'Évangile est vraiment un bonheur, vraiment une liberté, une libération. C'est pour ça que quelques chapitres plus tard, dans cette épître de Paul aux Romains, Paul peut dire, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ce n'est pas juste pour aujourd'hui, c'est pour l'éternité. C'est quelque chose d'acquis pour ceux qui sont en lui. On a cette assurance qu'il n'y a plus aucune condamnation. Parce que le contraire de la condamnation a déjà eu lieu, une fois pour toutes, c'est-à-dire la justification, la déclaration qu'on est juste, qu'on a été déclaré juste en Jésus. Et c'est pour ça que nous avons cette assurance. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la justice de Jésus qui a été créditée à notre compte par la grâce seule, comme un cadeau, parce qu'on a mis notre confiance en Jésus, par le moyen de la foi seule. Et on voit dans une autre lettre de l'apôtre Paul, il a donné un témoignage à la fin de sa vie. Il fait référence à toutes les choses, les qualités religieuses qu'il avait avant de venir à Jésus. Il a dit, et même je regarde toutes choses comme une perte, donc toutes ces qualités religieuses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde, donc ces qualités religieuses, comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà, la foi, que la foi. Alors, on pourrait en dire beaucoup plus, mais voici grosso modo ce que la Bible dit, ce que les protestants croient que la Bible dit à cet égard, comment un homme reçoit ce salut, cette bénédiction de Dieu, cette approbation divine. C'est en mettant notre foi en Jésus, que par la foi, rien que par la foi, sans nos œuvres, sans nos rites d'église. Alors, on va passer au deuxième volet, donc ce que les catholiques disent. On va essayer de comprendre ce que les catholiques disent, pour voir les enjeux, pour être capable aussi d'expliquer notre foi, expliquer la Bible à nos amis, à nos collègues catholiques. Je vais essayer de l'expliquer de manière succincte, et j'espère de manière juste. C'est pas facile de l'expliquer en si peu de minutes. Je suis pas le plus grand expert non plus, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être le plus grand expert pour expliquer ces grandes lignes. Comment est-ce que quelqu'un reçoit le salut de Dieu? Comment est-ce que quelqu'un reçoit ce salut acquis par Jésus-Christ? Donc voici une citation du catéchisme officiel de l'Église catholique. « La grâce du Saint-Esprit a le pouvoir de nous justifier, c'est-à-dire de nous laver de nos péchés et de nous communiquer la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et par le baptême. Et cette petite phrase, c'est vrai, on pourrait dire beaucoup de choses sur cette petite phrase, et on n'a pas le temps de tout explorer ce matin. Il y a quand même des différences philosophiques énormes, la nature de la grâce et la nature, la relation de Jésus à son Église, mais on va juste voir les éléments de base. Et on voit ici qu'il y a une conception, un concept très différent, une compréhension très différente de ce que c'est la justification. Le Saint-Esprit infuse la grâce dans le croyant. Parfois, je pense qu'on peut voir un peu la conception catholique en pensant à un grand arbre, et puis il faut être attaché à cet arbre, l'Église catholique, pour recevoir la sève, un peu la grâce qui coule, un peu comme un liquide. Et on doit être collé à cet arbre pour recevoir cette grâce donnée par le Saint-Esprit. Et ensuite, si on reçoit cette grâce On est vraiment lavé de nos péchés. Ça communique la justice de Dieu. Ce n'est pas une déclaration, c'est pas une, la justification n'est pas le fait de déclarer quelqu'un juste, mais plutôt le fait de rendre quelqu'un juste, pour que le croyant, celui qui reçoit cette grâce, devienne vraiment juste, changé à l'intérieur. Voici une définition de la justification, donc c'est le prochain diapo. Merci. La justification comporte donc la rémission des péchés, donc le pardon. La sanctification, c'est le fait d'être changé, d'être rendu saint. Et aussi la rénovation de l'homme intérieur. Toutes ces choses ont lieu dans la justification. Et c'est là un peu la différence clé. Pour le catholique, il faut devenir vraiment juste. C'est le Saint-Esprit qui opère ça par la grâce de Dieu. Nous lisons un peu plus loin dans ce catéchisme. Merci. La grâce du Christ est le don gratuit que Dieu nous fait de sa vie, infusé par l'Esprit Saint dans notre âme pour la guérir du péché et la sanctifier. C'est la grâce sanctifiante ou déifiante reçue dans le baptême. Donc, on voit que c'est quelque chose qu'on reçoit, ça nous rend vraiment juste, et on le reçoit par le baptême. C'est ça la cause, l'instrument. C'est par le baptême qu'on devient juste, qu'on soit justifié. Le baptême lui-même nous donne cette grâce de Dieu, cette vie de Dieu infusée en le croyant, qui le lave de ses fautes. Ce catéchisme dit un peu plus loin, la justification est accordée par le baptême, sacrement de la foi. Elle nous conforme à la justice de Dieu, qui nous rend intérieurement justes par la puissance de sa miséricorde. Donc on voit pourquoi les catholiques pensent que le baptême est si important, qu'il faut absolument que les gens soient baptisés. Parce que c'est ce baptême qui opère vraiment le salut. Les catholiques croient qu'il est vraiment nécessaire au salut. Que l'eau, ils prient avant que l'Esprit Saint descende dans l'eau et que l'Esprit Saint, par l'eau, opère ce salut, donne à celui qui reçoit ce baptême et cette nouvelle naissance. C'est pour ça aussi qu'il baptise les bébés. Il veut vraiment que ces bébés aient la nouvelle naissance, soient convertis en passant par les eaux du baptême. Alors, ils disent aussi que c'est quand même un sacrement de la foi. Il faut la foi. Ce sacrement, quelque part, nous permettrait de croire aussi après, de grandir dans la foi. C'est pour ça que pour les bébés qui sont baptisés, ils ont des marraines et des parrains qui manifestent la foi de l'Église aussi. Mais on voit après dans la foi catholique que cette foi n'est pas adéquate. Ce n'est pas une question de la foi seule, que la foi, mais il faut avoir plus que la foi. Parce qu'après avoir reçu le baptême, il faut quand même se maintenir dans la grâce de Dieu. On peut perdre cette justification, on peut perdre cette grâce. Et on doit la rétablir en recevant d'autres sacrements, comme la confirmation de la foi, en assistant aussi à l'Eucharistie, la scène, et aussi en profitant du sacrement de la pénitence. Donc ça, c'est le fait d'aller se confesser auprès du prêtre. Le problème pour le catholique qui se croit avoir été rendu juste par son baptême, c'est que cette justice se perd. Il voit bien dans sa vie qu'il pêche et ensuite, selon eux, ils perdent cette justification. Il lui faut donc retrouver encore une fois la grâce de la justification. Et c'est ce sacrement de la pénitence qui lui redonne cette justification. Donc, voici une citation un peu longue, mais qui explique ça. Le Christ a institué le sacrement de la pénitence pour tous les membres pécheurs de son Église. Avant tout pour ceux qui, après le baptême, sont tombés dans le péché grave et qui ont ainsi perdu la grâce baptismale et blessé la communion ecclésiale. C'est à eux que le sacrement de pénitence offre une nouvelle possibilité de se convertir et de retrouver la grâce de la justification. Les pères de l'Église présentent ce sacrement comme la seconde planche de salut après le naufrage qu'est la perte de grâce. Qu'est-ce que c'est cette pénitence? C'est le fait d'aller, c'est un peu la repentance, c'est le fait d'être sincèrement, d'avoir de la repentance sincère pour ses péchés, l'attristement, la contrition. C'est le fait d'aller se confesser auprès du prêtre. Et ensuite, il y a aussi l'élément de la réparation. Parfois, il faut dire des choses, parfois, il faut aller réparer une faute pour être ensuite pardonné et pour être rétabli dans cette justification. En fait, la foi en Christ ne suffit pas. Oui, il faut la foi, mais la foi ne suffit pas. Ce n'est pas la foi seule. On peut l'avoir, cette foi, mais ensuite tomber dans le péché grave, être fait naufrage, être exclu du royaume, même si on croit en Jésus. Donc la foi ne suffit pas. Et c'est là que le protestant dit non, ce n'est pas ça, la justification, cette déclaration, c'est quelque chose qui est basé non pas sur notre vie intérieure, nos hauts et nos bas, nos manquements, les hauts et les bas dans la vie. Mais en fait, cette déclaration est basée sur la justice de Jésus, qui ne change jamais. Lui qui a vécu de manière obéissante, de manière parfaite. Cette déclaration est basée sur lui. On ne peut pas perdre notre justification. Elle est donnée de manière gracieuse, une fois pour toutes, à ceux qui, dans l'humilité, s'accrochent à Jésus-Christ. Mais pour le catholique, lui, il doit se maintenir dans la grâce et l'amitié de Dieu. Et il le fait par ce cycle, en revenant, en profitant de ces sacrements d'Église. Il doit revenir pour avoir ce sacrement de la pénitence. Et si à sa vie il n'est pas assez pur, parce qu'il doit être rendu vraiment juste, il doit passer ses années au purgatoire, cette doctrine qu'on trouve, selon les protestants, on ne trouve pas dans la Bible, mais ils y vont pour être rendus encore plus justes avant qu'ils puissent vraiment entrer au ciel. En tout cas, voici quelques différences clés. Nous n'avons certainement pas tout dit, mais j'espère qu'on a pu voir, cerner un peu les différences clés entre les protestants et les catholiques. Alors, on pourrait se dire, à quoi bon parler de ces choses? Est-ce que ça fait une différence? Ou quelles sont les implications? Et c'est notre troisième point ce matin. On va conclure avec ces implications importantes. Dans le fascicule de Clayton, que j'ai recommandé, qui est en vente sur la petite table au coin, lui, il conclut en disant que la conception catholique du salut est, donc je cite, une altération grave de l'évangile de la grâce de Dieu. Car au lieu d'inviter les pécheurs à se fier à l'œuvre parfaite du Sauveur et à faire confiance à ses promesses du pardon, l'Église catholique propose une autre voie où son intervention est essentielle par ses sacrements et ses ministres. Donc on voit que finalement l'Église catholique commence à prendre une place très importante dans ce salut. Ce n'est pas la foi seule en Jésus seul, mais il faut passer de manière essentielle par cette Église catholique. Et l'apôtre Paul, je pense, a dû faire face à une erreur similaire. On le voit dans les Écritures, dans l'épître de Paul aux Galates. Le contexte n'est pas absolument le même, mais je pense qu'il y a des parallèles frappantes. Dans cet épître, on voit que les gens disaient que pour être sauvé, il fallait plus que la foi, la simple foi. Il fallait se faire circoncire, c'est-à-dire ce rite juif, religieux. Il fallait ajouter ça à la foi pour vraiment avoir la certitude de la bénédiction de Dieu, pour garder le salut. Et l'apôtre Paul, il était furax. Il disait que cet enseignement était un autre évangile, un évangile qui n'en est pas un. Et lui insistait sur le fait que le salut s'obtient simplement en croyant les promesses de Dieu. Tout comme Abraham, lui, a simplement cru Dieu. Paul n'a pas dit aux Galates, « Bon, il ne faut pas ajouter la circoncision parce que vous avez déjà le baptême. » Non, il a insisté sur la foi simple en Jésus-Christ. Pour Paul, c'est clair, c'est la foi seule en Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas le fait d'ajouter des rites. Et comme j'ai dit, c'est vrai que le contexte est un peu différent, mais je pense que les parallèles sont frappantes. Il y a tout un système dans l'Église catholique qui ajoute ces rites où il faut revenir pour les avoir, pour avoir la certitude de la bénédiction, l'approbation de Dieu. Et finalement, ça a pour effet de nous éloigner de Jésus-Christ, de cette foi simple en lui. Et ça commence à pousser le croyant à mettre sa confiance en les rites humains, en les rites de l'Église, en ses sacrements pour se maintenir dans la foi, pour se maintenir dans l'amitié et dans la grâce de Dieu. Donc la focalisation du croyant est différente. Je pense que l'apôtre Paul n'aurait pas dit, bon, de toute manière, soyons clairs, on croit tous en Jésus-Christ, c'est quand même ça l'essentiel. Paul était extrêmement soucieux de garder Jésus au centre de la foi et de maintenir cette foi simple en Jésus-Christ, dépourvue d'œuvres humaines, dépourvue d'œuvres ecclésiastiques. Pourquoi ? Parce que l'Évangile est finalement centré non pas sur l'homme, mais sur Dieu, Dieu lui-même. Il y va de sa gloire, de son honneur, de sa réputation. Parce que dans cet Évangile, on voit la gloire de Dieu. L'Évangile est vraiment une célébration de sa grâce, de ce qu'il a fait. Et ce salut est vraiment ce que Dieu a accompli. Et Dieu a tout accompli, du début jusqu'à la fin. Notre réponse est simplement limitée à cette foi simple en Dieu. En quelque sorte, on pourrait dire que le salut rime avec le sabbat. On se repose de nos œuvres et on se repose en Jésus. Dieu a tout fait en Jésus. L'Évangile n'est pas un mi-chemin entre Dieu et l'homme où Dieu fait peut-être trois quarts et ensuite l'homme met aussi sa contribution. Non, c'est toujours à 100% Dieu, du début jusqu'à la fin. Nous, on fait simplement confiance à ce que Dieu a accompli. Et vous savez, cet évangile de la foi, cette foi simple en Jésus-Christ, est vraiment bon pour l'homme. C'est certes humiliant pour l'homme, mais bon pour lui parce qu'il nous donne l'assurance de notre salut. Nous pouvons dire que nous sommes à Jésus et Jésus est à nous aujourd'hui comme dans l'éternité. On peut être confiant, on peut avoir la confiance, l'assurance, parce que finalement, ça ne dépend pas de nos efforts, de nos actions dans ce cycle où on doit se maintenir dans la grâce et l'amitié de Dieu, ce cycle de sacrement, de confession, de réparation de nos fautes. Ce n'est pas ça. On dépend simplement de ce que Jésus a accompli une fois pour toutes. Et ce que Jésus a accompli est pleinement suffisant. Et ça, c'est libérateur. Dieu l'a fait. Il a fait de manière décisive. Et du coup, nous pouvons nous reposer en Jésus. On n'a pas à nous inquiéter. On n'a pas à se dire, oui, je dois peut-être confesser quelque chose, ou réparer quelque chose, ou me rétablir dans cette grâce, dans cette justification. C'est fait. Jésus nous a déclarés justes. Dieu nous a déclarés justes sur la base de ce que Jésus a fait, sur la base de la justice de Jésus. Alors, j'espère sincèrement que beaucoup de catholiques sont quand même convertis avec cette foi simple en Jésus-Christ, malgré un peu l'enseignement de l'Église catholique. Parce que je pense que cet enseignement catholique avec ce cycle dénature la nature de la foi, dénature cette foi. Ce cycle rend idolâtre la foi en quelque sorte, parce qu'on commence à avoir confiance en les actions de l'homme, ce que l'homme peut faire par ses rites, au lieu de faire confiance simplement à ce que Dieu a fait. Je sais que ce n'est pas facile d'entendre de telles choses. On vit à une époque où on veut être tolérant, on veut être rassembleur, on veut niveler ces différences. Mais je pense qu'il y va de la mort et la vie. Donc il y va de cette foi simple qui sauve et la puissance de l'évangile qui sauve quiconque croit. Et je pense que l'apôtre Paul aurait dit la même chose. Et il aurait dit la même chose par compassion, pas pour polémiquer, mais vraiment par compassion. Et nous, par compassion, on peut aussi l'expliquer à nos amis, à nos collègues catholiques, parce qu'on veut qu'ils ne s'écartent pas de Jésus, qu'ils aient cette foi simple en Jésus, qu'ils aient cette assurance, qu'ils ne dénaturent pas la foi ou qu'ils ne rendent pas idolâtre cette foi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas simple. On peut d'abord prier pour nos amis, nos collègues catholiques. On peut prendre les occasions qui se présentent à expliquer la foi biblique. Peut-être à lire la Bible avec eux. Ça serait peut-être intéressant de lire l'Épître aux Romains avec eux ou l'Épître aux Galates. Et les inviter à ne pas faire confiance aux sacrements, aux prêtres, mais juste à faire confiance à Jésus seul. Pour être cohérent, je pense que je dois dire aussi que pour quelqu'un qui commence à comprendre ces choses, c'est juste les inviter à quitter l'Église catholique aussi pour aller dans une Église où vraiment la foi seule, en Jésus seul, est annoncée. Et pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on doit faire? Finalement, on doit faire la même chose parce que nous aussi, on peut dénaturer la foi. C'est tellement tentant tellement facile de tomber dans les mêmes pièges. On ne le fait pas forcément de la même manière. Mais on peut ajouter aussi nos rites. Et notre confiance peut finalement être en ce que nous faisons plutôt qu'en Jésus seul. Nous avons besoin de nous enraciner en cet évangile où, pour la gloire de Dieu, tout a été accompli une fois pour toutes par Jésus-Christ. En cette foi qui se reçoit comme un cadeau. Cette simple foi, la foi d'un enfant. Je pense que cette foi simple en Jésus n'est pas une chose facile. Moi, personnellement, je pense que j'ai longtemps lutté avec ça. Et parfois, je lutte encore. Parce que c'est tellement tentant devant Dieu d'ajouter des choses. De penser à notre parcours religieux, à ce que nous avons fait. Au fait même de confesser nos fautes. Parfois, on veut réparer nos fautes et faire confiance finalement à ce que nous avons fait nous-mêmes. C'est tellement tentant de vouloir faire confiance ou même juste prendre des choses en main nous-mêmes. Parfois, personnellement, je dois dire à mon cœur, tais-toi, repose-toi en Jésus seul. Oui, tu as fait ça, mais Jésus est suffisant. Son sacrifice est suffisant. Tu es déjà en lui, déjà revêtu de sa justice. Tu n'as pas à faire des choses en plus pour te rétablir dans la justification. Tu es déjà déclaré juste. Tu es déjà revêtu de Jésus. Fais confiance à Jésus. C'est ce que je dois dire à mon cœur. Et parfois, ce n'est pas évident de le dire. Parfois, pas évident de juste croire à Dieu. Le croire sur parole que Jésus est suffisant. Ça nécessite de la foi. En fait, c'est que Dieu qui peut nous donner cette foi. Parce que cette foi, pour l'avoir, il faut vraiment s'humilier devant Dieu et dire, voilà, je ne peux pas faire confiance à moi-même. Je ne peux pas faire confiance aux institutions humaines, à leur rite. Je dois simplement faire confiance à Jésus. Et on doit dépendre de lui. C'est vraiment Dieu, dans sa grâce, qui nous donne cette foi aussi. On va demander à Dieu de l'aide pour nous-mêmes dépendre de Jésus seul, par la foi. Et aussi, on va prier aussi pour nos amis, nos collègues catholiques. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour ce salut que Jésus nous a acquis. Merci pour sa vie juste. Merci pour son sacrifice qui satisfait toutes tes exigences de justice. Merci pour ce salut en lui. Et Père, nous voulons venir humblement devant toi et nous accrocher à Jésus seul. Il n'y a rien en nous qui peut nous justifier. On ne veut pas faire confiance à nos rites, nos œuvres religieuses, nos sacrements. Mais on veut te faire confiance à toi seul. Père, nous voulons te demander de nous aider à faire ça par moment. On est tenté d'ajouter des choses, à prendre des choses, les choses en main nous-mêmes. Donne-nous de l'humilité. Donne-nous de laisser par terre notre orgueil et à nous accrocher à Jésus seul. Et notre Père, nous voulons te présenter nos amis, nos collègues, les membres de nos familles qui sont catholiques. Père, nous voulons te demander de nous donner des occasions d'expliquer la foi biblique, d'expliquer cette foi simple en Jésus, dépourvue d'œuvres humaines, religieuses, ecclésiastiques. Et dans l'art de voir toute la beauté de ce salut et de venir à Jésus seul. Père, nous te demandons de nous donner le courage aussi d'expliquer ce salut. Nous voulons vraiment te demander de nous aider cette semaine à faire ça. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.